Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Paroles d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Hausse des températures, 1,9 degré de plus en moyenne dans la vallée de la Drôme. Des cultures et forêts fragilisées, des effets néfastes sur les personnes les plus fragiles qui seront les premières victimes. Le climat d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, c'est un fait. Ces mots sont ceux de Jean Serré, président de la communauté de communes du Val de Drôme. Pour tenter de s'adapter à ce dérèglement et réduire nos émissions carbone, l'intercommunalité s'est, comme beaucoup d'autres en France, engagée dans un plan climat air énergie territorial, dit PCAET. Pour en parler dans cet épisode d'Il est une vallée, l'émission que vous écoutez à la fois sur Radio Saint-Ferréol et Erdiwa en partenariat avec BioVallée, nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Bouvier. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Alors vous êtes élu maire depuis 2020, maire de...
Oui, c'est ça, oui, à Montoison.
Et vous êtes également du coup vice-président à la communauté de communes du Val-de-Drôme.
C'est ça, depuis une quinzaine d'années en charge de la transition énergétique en particulier.
Genre la transition écologique, énergétique, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette fonction et de par votre parcours, votre engagement en tant qu'élu?
Alors oui, j'étais en tant qu'élu à la commune de Montoison depuis longtemps. J'étais le représentant de la commune auprès de la communauté de communes. Et puis progressivement, je me suis intéressé un peu plus près à tout ça jusqu'au moment où on m'a proposé la vice-présidence.
Alors, ce n'est pas une compétence obligatoire, on en parlait juste avant l'émission, cette question de la protection de l'environnement, ça ne fait pas partie des compétences obligatoires des communautés de communes, mais la CCVD s'est engagée, alors quand même par obligation, sur ce PCAET. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que cette compétence a gagné la communauté de communes?
Alors, à l'évidence, cet intérêt pour l'environnement est quelque chose qui fait bien partie de l'ADN de la collectivité depuis toujours. Elle s'était engagée sur le programme Rivière à propos de la Drôme. Elle avait pris le relais sur le grand GPRA, le projet Rhône-Alpin à propos de BioVallée. C'est de là qu'est née la BioVallée sur l'ensemble de ces trois intercos. Ouais. Et puis, lorsque le programme en question s'est interrompu, puisqu'il était porté par la région sur un nombre d'années limité, on a pensé immédiatement que le relais le plus naturel, c'était de s'intéresser à l'environnement sous la forme de l'énergie, puisque la modification, la transformation, l'utilisation de l'énergie est une façon très efficace de dégrader l'environnement. On s'est dit qu'il y avait un vrai sujet. C'était sous-tendu aussi par un autre aspect, c'est qu'on avait la volonté que la facture énergétique de notre territoire soit réglée, mais qu'elle le soit à son propre profit. Mmh. Il s'agissait de relocaliser la richesse produite. On continue avec cette quasi-obsession de faire en sorte que, autant que possible, tous les électrons produits créent de la richesse sur notre territoire et non pas au bénéfice de fonds de pension étranger. Voilà.
Oui, parce que jusque-là, du coup, l'énergie qui est consommée sur le territoire est majoritairement, vient majoritairement de l'extérieur.
Oui, oui, c'est du pétrole et c'est de l'électricité, mais c'est forcément quelque chose qui exporte la richesse du territoire ailleurs.
Et justement, dans ce PCAET, donc ce plan climat, on va dire, pour rester plus simple, même s'il y a air, énergie, territoire pour les trois autres lettres de l'acronyme, il y a cette question de l'énergie qui est centrale, le développement des énergies renouvelables, on y reviendra. D'abord, à partir de quel diagnostic est-ce que vous êtes parti pour développer ce plan climat? Quels sont les...
Alors, le diagnostic était la première phase, la première mise en œuvre du plan passait par le diagnostic. Donc, on s'est intéressé à tous les chiffres dont on disposait concernant la production énergétique, la consommation d'énergie, l'état de notre parc immobilier sur le plan énergétique et toutes ces données, la dégradation de l'air, les phénomènes de pollution liés particulièrement chez nous à la présence de l'autoroute, ce genre de choses. Le diagnostic a été établi. Et puis à partir de là, on a défini un certain nombre d'actions. et d'objectifs, des objectifs qui portent sur l'ensemble de ces paramètres, à savoir la réduction de la consommation, l'amélioration des conditions de vie et de résistance des bâtiments à l'évolution de la température. Très vite, on a intégré d'autres paramètres, celui de l'air à l'évidence, et puis celui de l'évolution de nos forêts, puisqu'on est quand même un territoire où la forêt est assez présente, et où elle est probablement une des premières victimes de l'évolution du climat.
Donc là, vous citez aussi les principaux engagements, les principaux objectifs de ce PCET qui sont à la fois lutter contre le dérèglement climatique, s'y adapter, parce que de toute façon, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir, il va falloir s'y adapter. On parle de questions de sécheresse, de manque d'eau, et de retard des saisons, par exemple, des choses comme ça, qui ont un impact fort sur le territoire qui est majoritairement agricole en plus. Et puis cette amélioration de la qualité de l'air sur le territoire. Tout ça, en fait, ça, c'est aussi une obligation légale, c'est-à-dire que ce PCET ne vient pas de nulle part, ça s'inscrit à la fois dans une stratégie nationale et puis régionale.
Le PCET est effectivement une obligation pour des intercommunalités de plus de 20 000 habitants. C'est la loi. Ceci dit, on n'a pas engagé le travail dans cette perspective de répondre simplement à une demande réglementaire. On s'était dit que c'était au contraire une opportunité si on s'en emparait d'une façon positive, dynamique, et que ça nous permettait d'avoir un travail de fond sur la qualité environnementale, sur la vie de nos habitants et sur la survie de notre environnement. Donc c'était vraiment un acte volontaire et pas simplement la soumission à une règle.
Et elle s'inscrit aussi notamment dans la continuité de certaines actions qui étaient déjà menées sur le territoire, par exemple par la Biovallée.
On avait de toute façon là-dessus un historique, le travail qui a été fait sur la rivière Drôme dans un premier temps, avec le Sage, qui était lui très innovant aussi à son époque, avec le travail qui a été fait dans le cadre du projet Rhône-Alpin qui nous a permis de faire émerger Biovallée, avec toutes les suites qui en sont advenues. Et puis à la sortie de tout ça, on s'était dit qu'il fallait qu'on continue à innover. Chaque fois, ça part sur des idées qui sont très simples. À propos de la rivière, l'idée, c'était de la rendre baignable un jour. À propos de Biovallée, c'était de fédérer le territoire autour de projets du type environnemental. Et à la sortie, on s'est dit que la suite logique, c'était de prendre en compte ce qui émergeait très, très rapidement et plus brutalement que ce qu'on avait imaginé un temps, à savoir le dérèglement climatique et toutes ses conséquences dans la foulée.
Des conséquences qui sont visibles sur le territoire
qui sont déjà visibles, il n'y a pas de doute là-dessus.
Les problèmes de sécheresse, mais alors pour quelques chiffres, c'est l'Observatoire régional des gaz à émissions à effet de serre. Gaz à effet de serre, pardon, qui mesure à presque quasi 2 degrés l'augmentation de la température.
On parle aujourd'hui de 2,3 degrés et il se trouve que notre...
Sur le territoire.
Sur le territoire de la communauté de communes. La France est particulièrement visée par les évolutions en matière de hausse des températures du fait de sa position géographique. La Drôme, elle aussi, est très sujette à enregistrer des records.
Et il y a un chiffre qui pourrait monter jusqu'à 4 degrés en 2100 si rien n'était fait. Ce qui est déjà, on ressent concrètement les effets, on en a parlé un petit peu, la sécheresse, les événements climatiques extrêmes.
En prenant en compte aussi que ces augmentations sont des augmentations moyennes, mais que ça suppose derrière des pics qui rendent la vie assez rapidement inconfortable.
C'est ça. Donc 2 degrés, c'est une moyenne sur l'année, donc s'il y a des moments plus froids, ce sera des moments où en fait, ça accentue les extrêmes.
C'est ça. Et puis avec toutes les conséquences que ça a en matière d'agriculture, puisque la modification des dates de venues à fleurs, la modification du nombre de jours de gel, leur remplacement dans l'année, etc. Tout ça, c'est des facteurs qui sont des agressions réelles en matière de production agricole. Or là aussi, la communauté de communes s'est intéressée depuis toujours à la production vivrière et à la production d'une agriculture de qualité. Et donc, elle est impactée de ce point de vue-là.
Elle est impactée, paradoxalement, certaines pratiques agricoles participent, elles aussi, à ce dérèglement climatique.
Oui, mais c'est un raisonnement qu'on peut élargir à l'ensemble de la population. C'est pas que les agriculteurs. Nous aussi, on prend notre voiture tous les matins et on en prend parfois deux dans la journée.
la donc, première cause. Hein. Première voilà, cause d'ailleurs, c'est les transports.
Les transports, ouais. Oui. Les transports et le résidentiel, qui à eux deux représentent 80% du problème.
Le résidentiel, c'est-à-dire essentiellement le chauffage, du coup.
Oui, c'est ça. La mauvaise isolation des bâtiments, le chauffage, la façon dont on chauffe aussi, qui n'est pas toujours très optimal. Et quant aux transports, ils sont évidemment très importants, mais là aussi, on peut prendre en compte que les gens dans une position rurale comme la nôtre ont des impératifs en matière de déplacement. Les entreprises, c'est des secteurs, que ce soit le transport ou que ce soit l'habitat, c'est des secteurs sur lesquels l'inertie au changement est très très forte. Changer d'habitude pour une entreprise en matière de colisage, répondre au fait que de plus en plus le commerce se fait de façon dématérialisée par Internet et que ça suppose des flux énormes. On a tous nos responsabilités. La gestion à flux tendu des pharmacies fait qu'il circule en permanence des médicaments dans des véhicules. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ont souvent considéré que le véhicule de transport était aussi un véhicule de stockage et d'entreposage de ces produits. Donc, c'est très compliqué de changer ce genre d'habitude. Ouais. Et puis, chez nous, en milieu rural, les gens nécessairement ne travaillent pas là où ils habitent pour la plupart d'entre eux.
Oui. Il y a un prix de se déplacer quotidiennement.
Voilà, ça a créé des impératifs de ce point de vue.
Avec quand même le développement du covoiturage, de la mobilité
douce. Oui, ça a été le fond. On a essayé de travailler les choses en termes de mobilité de ce point de vue-là. Vous savez que la communauté de communes avait fait le choix de garder la compétence mobilité et l'organisation de la mobilité. On a travaillé beaucoup en première intention, c'était sur l'allocation de vélos, la mise à disposition de vélos assistés. Et puis, on a aujourd'hui deux voitures en covoiturage, on travaille sur la circulation des gens, des biens avec des mises en place de stations de covoiturage appropriées sur l'ensemble de la vallée, etc. Il y a tout un travail qui est fait dans ce sens. Ouais.
Avec une spécificité quand même sur le territoire, c'est qu'elle est traversée par l'autoroute, la 7. Oui. Alors je regardais les chiffres dans la synthèse, c'est quasiment l'équivalent de notre consommation de transport, simple portion d'A7 qui est sur le territoire.
Absolument, elle pèse très lourd, elle pèse en termes de consommation puisqu'on nous affecte les litres de gasoil consommés sur le passage, mais surtout la production des gaz à effet de serre, la pollution, les microparticules en suspension, etc. Ça, elle a un rôle très important de ce point de vue-là, c'est vrai.
Et qui vient jouer du coup sur la qualité,
qui joue sur la qualité de l'air et sur lequel on a malheureusement peu de capacité à agir. C'est quelque chose qui nous échappe un peu.
Oui. Parlant de pollution de l'air, c'est un autre chiffre qui m'a marqué du coup dans la synthèse de ce diagnostic. 60% de la population du territoire respire un air qui dépasse le seuil de zone, donc un air qui peut avoir des dangers sur le plan sanitaire. Oui. Ça, c'est un vrai problème aussi, et ça fait partie des objectifs aussi du plan climat air énergie territoriale
d'améliorer cette qualité. D'améliorer cette qualité, d'améliorer le suivi aussi de la qualité de l'air. Il y a un certain nombre d'opérations qui sont envisagées pour avoir une lecture plus fine et plus rapide de ce qui se passe. On sait que notre territoire est effectivement très impacté par les pollutions à l'ozone, par les pollutions aux microparticules, etc. Il faut en avoir une connaissance fine de façon à pouvoir identifier les lieux, les causes, etc. Ceci dit, la qualité de l'air s'est améliorée ces dernières années. On peut supposer que le Covid n'y est pas pour rien. Enfin, on va garder le moral en se disant que nos actions aussi servent à quelque chose.
Alors, aux actions, d'ailleurs, pour améliorer cette qualité de l'air, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité de l'air sur un territoire comme la
Campagne ? Là, en l'occurrence, il y a plusieurs aspects. Il y a celui des transports, bien sûr, puisque c'est eux qui génèrent. Alors, il y a la possibilité d'essayer de faire progresser les parcs de véhicules vers des formules plus vertueuses, véhicules électriques. On a beaucoup pensé aussi à l'hydrogène et je crois qu'on continuera à y penser parce que c'est à un moment ou un autre quelque chose qui va émerger de façon forte. Donc il y a toute la production de la pollution, le renouvellement du parc auto est lui forcément aussi à la vitesse des possibilités de chacun de changer de voiture. Mais on essaye d'encourager le véhicule électrique.
L'encourager, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites pour encourager les particuliers?
Alors ça passe par la création de bornes électriques suffisamment présentes sur le territoire. Aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises et les collectivités ont cette politique d'installer des bornes pour essayer de faciliter la montée en puissance de la voiture électrique. Mmh. En se disant pour autant que la voiture électrique n'est pas non plus la panacée, probablement, parce qu'elle impose...
implique d'autres problèmes, problèmes ailleurs.
Voilà, qu'il s'agisse des batteries ou de la consommation électrique elle-même, qu'il faut bien assurer d'une façon ou d'une autre. Aucun sujet n'est complètement neutre et complètement vertueux. Il y a toujours deux côtés à la carte.
Peut-être la mutualisation, déjà, le covoiturage, le transport, les transports en commun, vélo. Alors je sais que vous avez un parc vélo électrique aussi.
Oui, qui fonctionne bien avec la 3CPS aussi, d'ailleurs. Ouais. Et donc ça, c'est un plus, et ça a été un plus, peut-être pas en termes de volume, encore que, c'était assez conséquent, mais ça a été une façon de pousser les gens à passer à l'acte, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pu tester les vélos sur des périodes suffisantes pour se rendre compte de la capacité qu'ils avaient à adopter ce mode de transport. Mmh. Et ça s'est plutôt bien passé, et ça a plutôt été assez efficace de ce point de vue. Mmh. Et c'est aussi générateur d'un changement dans les habitudes et la mentalité. Chez nous, aujourd'hui, à la communauté, au siège, le nombre de salariés qui covoiturent ou qui viennent en vélo a pris une importance assez forte.
Donc, une bonne chose.
Alors voilà, ils ont une solide motivation, mais c'est bien que ça se traduise dans les faits. Ouais.
Et il y a également une pré-location de véhicules électriques, je crois que c'est la communauté de communes qui s'occupe de ça.
Oui, on a deux véhicules, les véhicules qui sont effectivement stationnés au campus et qui sont en prêt pour un usage donné. On a aussi les bornes électriques qui sont présentes sur le siège et qu'on commence à voir maintenant à peu près dans toutes nos zones intercommunales pour contribuer à faciliter le passage à l'acte.
Donc tout ça, c'est pour émettre moins, améliorer la qualité de l'air et puis réduire les effets, nos impacts sur le dérèglement climatique. Et il y a une autre stratégie, c'est celle de capter le carbone, parce que le carbone peut aussi se capter, on peut séquestrer par le biais de forêts, d'arbres. C'est aussi une des stratégies...
Un des éléments qu'on a pris en compte à travers la stratégie forestière. La stratégie forestière qu'on a mis en œuvre, là, est quelque chose qui a du sens. D'une part, parce qu'elle porte sur les différents aspects concernés. La forêt, pour nous, c'est un bien commun, c'est la première chose. Et secondairement, c'est un bien où les effets du changement climatique sont probablement les plus visibles et les plus forts. Donc c'est à la fois un outil de sensibilisation. On voit bien quand on se balade que nos forêts commencent à souffrir. On voit bien que le scolyte s'attaque aux pins, on voit bien que certains êtres sont en train de mourir, et tout ça va supposer un renouvellement et des changements d'essence, sachant que le pas de la forêt n'est pas le nôtre, et que faire évoluer une forêt, c'est quelque chose qui mérite d'être pris très en amont, parce que la vie d'un arbre, c'est la maturité, c'est 70 ans, quoi. Donc il faut se donner ce délai.
La forêt, fait du coup à long terme.
Oui, mais c'est un engagement qui doit être pris tôt, même si on n'en a pas tous immédiatement le sentiment de l'intérêt, parce que c'est probablement quelque chose qui va jouer un rôle énorme. La forêt, elle a un rôle sur le cycle de l'eau qui est important, et elle contribue très fortement au cycle de l'eau. C'est un lieu de fraîcheur, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu d'activité sportive, c'est un lieu... C'est tout ça à la fois, et c'est aussi un lieu de production d'énergie pour la chaleur bois, pour les réseaux de chaleur bois qui a du sens.
Pour le bois énergique, du coup, qui est qui fait partie des énergies renouvelables, mais du carbone.
Alors, qui émet, mais qui émet beaucoup moins que ce qu'il remplace. Et puis, qui nous autorise aussi une forme, là aussi, de relocalisation. C'est-à-dire que il est quand même plus sain de se dire que nos bâtiments communaux sont chauffés avec le bois produit localement, qui de toute façon est là, et que l'entretien de la forêt passe aussi par la récupération de certaines parties de ces bois-là. Ouais. Et c'est toujours mieux que le gaz ou le... pétrole.
Qui en plus viendrait de loin. Et du coup,
ils viennent avec de loin, quand ils viennent, c'est pas...
Quand ils viennent, c'est ça.
Et donc c'est effectivement toujours un vrai souci. Et quand on... Ne serait-ce que remarquer les enjeux que ces sources d'approvisionnement en énergie ont sur le plan géopolitique, ça donne bien une idée qu'on aurait meilleur compte.
À utiliser notre énergie disponible ici.
Voilà, absolument. On sait qu'on a une forêt qui produit environ 30% de bois utilisable par an, que ça représente des volumes importants, significatifs, que quand les réseaux sont bien conçus, la production de gaz à effet de serre est minimale par rapport à ce que donneraient les mêmes chaudières en fonctionnement gaz. Donc ça reste quelque chose de vertueux, même si il faut pas s'illusionner sur le fait que chaque fois qu'on produit ou qu'on transforme de l'énergie,
de toute façon on a
des effets négatifs, des effets collatéraux négatifs. La question, c'est de choisir les transformations qui sont le moins négatives de ce point de vue-là.
Donc réduire essentiellement, et réduire le chauffage, ça veut dire rénover le parc immobilier qui commence à être assez vieillissant sur le territoire.
Absolument. Alors ça, c'est un gros sujet aussi. On a là-dessus le SPI qui travaille, le service public intercommunal de l'énergie, qui porte sur la vallée, avec lequel on accompagne des ménages pour les assister à la rénovation. On a fait le constat que la rénovation globale, qui était la priorité initiale, pèse pour différentes raisons. Mais la première est qu'elle suppose des capacités financières importantes. Que donc, on a porté notre action un peu plus généralisée sur des foyers plus modestes qui avaient des ambitions... moindre, sachant que c'est quand même eux qui souffrent le plus de tout ça, puisqu'ils n'ont à la fois pas la capacité de s'isoler, d'économiser, leurs factures sont plus lourdes qu'ailleurs, et ils n'ont pas les moyens non plus de solutions alternatives pour se rafraîchir l'été. Donc il y a tout un travail, et de ce point de vue-là, le PCAET a aussi une vocation sociale qui est forte et qui correspond effectivement à la tradition de la communauté de communes aussi. On travaille, on accompagne des ménages précaires dans le cadre du SPI, et on essaye de faire en sorte que le passage à l'acte pour eux, par des subventions versées, leur garantit la capacité de ne pas rester sur la touche.
Les subventions, par exemple, qui peuvent concerner la rénovation...
La rénovation des logements, oui.
Sachant que c'est des ménages qui sont essentiellement locataires. En tant que locataire, on peut aussi demander des subventions.
Il y a toujours possibilité. On a versé, dans le cadre de ces accompagnements, on est à 3 millions et quelques d'euros qui ont été versés ces dernières années. Donc c'est quand même énorme. Et c'est probablement là qu'à terme, on est le plus performant pour... la protection de nos habitants, leur pouvoir d'achat et leur bien-être.
Comment est-ce qu'on doit s'y prendre, du coup, en tant que locataire, par exemple, quand ce n'est pas la demande du propriétaire?
Il ne faut pas hésiter à s'adresser au service public de l'énergie, à Julien Coudert et à toute son équipe, une équipe qui est costaud, qui est très présente et très disponible. Elle est prête à répondre à toutes les demandes.
Et du coup, d'accompagner ces démarches.
Voilà, et elle se trouve logée à la 3CPS administrativement, donc c'est là-bas que vous pouvez les orienter.
Ça fait partie des objectifs, du coup, des principaux objectifs stratégiques que vous citez. Alors, il y a 6 objectifs stratégiques qui sont divisés en 35 actions, 35 fiches actions. Donc, c'est assez précis, finalement, on va dire.
Oui, je trouve que ça l'est bien assez, d'ailleurs, parce que on a besoin d'écrire des objectifs, parfois très précis, mais en ayant bien en tête que les choses changent dans le temps. Et que ce qui est important, c'est les tendances plus que les objectifs chiffrés. En fait.
Donc là, parmi les objectifs, il y a cette question d'énergie. On a parlé du bois, mais ce n'est pas la seule énergie renouvelable sur le territoire qui doit être développée.
Alors, il y en a d'autres, oui. Il y a le photovoltaïque qui explose un peu partout. Probablement là aussi, parce que les premières initiatives venaient de l'interco et des communes qui ont commencé à installer pour elle, ce qui a probablement suscité aussi des vocations chez nos habitants qui de plus en plus se tournent vers la production et en particulier l'autoconsommation, qui est une façon nouvelle et intéressante de gérer la question de sa facture. Donc le mouvement a pris de l'ampleur, il y a là aussi quelques inconvénients à ça. On sait qu'aujourd'hui la source de nos panneaux...
Sur la production notamment,
oui. Oui, la source de nos panneaux solaires est malheureusement très peu pertinente, mais ça c'est une question d'histoire. On a plié la filière à une époque et on en paye les frais aujourd'hui.
Parce que les panneaux qui ne sont pas produits localement, avec des matériaux qui viennent de loin et qui sont problématiques.
Qui viennent de loin, avec aussi des matières rares qui sont extraites de façon peu digne. C'est ça. Donc là, ça, ces choses changeront probablement, mais très lentement.
Parmi les autres objectifs, il y a la question de mobiliser aussi les citoyens, c'est-à-dire on en a parlé un petit peu à travers les forêts, c'est-à-dire sensibiliser aussi le public, accompagner des initiatives citoyennes. Ça, c'est important pour vous, c'est quelque chose...
Alors, je pense que c'est très important. On a fait, l'an passé, il y avait eu la fête de la forêt, qui était un premier mouvement qu'on voulait lancer avec la 3CPS à ce sujet pour familiariser le public à cette problématique et bien mettre en évidence que la forêt c'est quelque chose de complet et de complexe, qu'elle ne se réduit pas à une utilisation simple, avoir en tête tous ces tenants et aboutissants. Et cette année l'événement va être reproduit dans le cadre de la nuit des forêts à Gigore-et-Lozeron le 15 juin en nocturne. Et donc avec quelque chose qui s'annonce plutôt sympathique sur la forêt de Gigore.
Qui est ouvert à toutes
et
à tous.
Qui est ouvert au public et j'encourage tout le monde à venir participer à cette manifestation qui est riche de démonstrations de toutes sortes.
Donc le 15 juin à Gigore-et-Lozeron, on le rappellera dans la description de
l'émission. Et c'est gratuit.
C'est gratuit. Donc accessible en plus.
Absolument.
À tout le monde. Donc mobiliser, on en a parlé. Il y a la question aussi du coup de l'économie circulaire. Du coup, c'est-à-dire qu'on en a parlé là, alors pour l'énergie déjà, développer le bois, mais pas que. Aussi dans l'industrie, c'est de retrouver un petit peu cette économie locale.
Oui, alors dans l'industrie et pas que, dans l'agriculture aussi, puisque la cantine qui vient d'être mise en œuvre au niveau de l'Interco, là, qui a pour
vocation, campus,
qui nourrit nos écoles, c'est aussi une façon de faire de l'économie circulaire puisque elle travaille sur la base de nos producteurs locaux, elle redistribue localement et elle évite des importations de matières alimentaires. Donc de ce point de vue-là, ça rentre bien dans les clous. L'économie circulaire, on a d'autres exemples assez intéressants. C'est la montée en puissance de l'entreprise GPA. Qui faisait de la casse automobile et qui aujourd'hui fait du recyclage automobile et tout est géré d'une façon très très fine, avec accessoirement une alimentation électrique aussi très propre puisque la centrale photovoltaïque est aujourd'hui en plus une éolienne moyenne qui leur permet de compenser l'alternance du photovoltaïque. C'est-à-dire quand il n'y a pas de soleil, l'éolienne tourne quand même. Et réciproquement, quand il n'y a pas de vent, c'est...
Le parc éolien qui a développé aussi
Alors le parc éolien a développé, alors avec bien sûr toutes les précautions qu'il faut prendre pour en parler. La communauté de communes avait pris une convention cadre sur le sujet qui était très claire, à savoir qu'elle était prête à soutenir des projets éoliens sous réserve que les communes porteuses soient favorables. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de forcer le passage chez qui que ce soit, par contre d'être là en soutien chaque fois que c'était possible. Donc il y a un certain nombre de parcs sur lesquels elle intervient aujourd'hui. Et avec là aussi une volonté très forte de ne pas laisser le produit échapper. C'est-à-dire que son intention aujourd'hui, c'est d'être présente au capital de ces sociétés de projet, de façon à là aussi ramener la richesse produite sur le territoire. Les éoliennes posent les problèmes qu'on sait, elles ont aussi les avantages qu'on sait, c'est-à-dire que... La production produite, elle est consommée sur place.
Ouais.
Et que c'est pas neutre. Après, il faut savoir arbitrer entre les inconvénients, les avantages. Et c'est vrai de toute production d'énergie, de toute façon. Alors celle-ci focalise un peu plus l'attention. Mais pour autant, voilà, il vaut peut-être mieux ça qu'un énorme barrage sur la Drôme, oui. Ce genre peut-être de choses.
Je pense que je suis pas sûr que la population vous laisse faire ça.
Non, je pense que de ce point de vue, c'est... Non, et puis de toute façon, le monde politique avait, s'était prononcé très fortement à ce sujet, d'une façon positive.
Bah, relocaliser l'énergie, de toute façon, ouais. On en a parlé après, parce que ça a un sens à la fois sur ces questions de dérèglement climatique, mais aussi sur le plan économique, parce que ça, c'est une vraie facture pour le territoire d'apporter l'énergie.
Voilà. Et dans certains cas, c'est même une façon de mettre la facturation au niveau qu'on souhaite, nous. C'est-à-dire que quand on produit massivement de l'électricité en autoconsommation, et on a là-dessus des projets assez... C'est spectaculaire. On devient producteur d'énergie, donc on est en maîtrise aussi de la facture qu'on émet. Il y a une possibilité d'arbitrage. On a des projets assez conséquents sur dans ce domaine.
Alors, malgré tout, malheureusement, ce sera impossible de complètement inverser la courbe. Donc, il y a une autre stratégie, c'est qu'il va falloir de toute façon s'adapter.
Ouais.
Alors, comment l'agriculture, mais pas que l'agriculture, et si les activités liées au loisir, par exemple la baignade, on l'a vu il y a 2 ans pendant la grande sécheresse, que c'était un vrai problème, une vraie problématique, on le sent de plus en plus. Comment est-ce que, quelles sont vos stratégies pour tenter de s'adapter à ce dérèglement qui aura lieu de toute façon?
La stratégie, c'est d'accompagner les gens à faire la démarche eux-mêmes, de s'adapter. C'est un peu hypocrite comme réponse.
C'est honnête, non? Au contraire, c'est honnête de le dire.
Il faut que chacun ait en tête que tout ne vient pas de l'extérieur et qu'il y a un certain nombre de démarches à entreprendre soi-même. Je pense à la façon dont on organise... Le résidentiel dans les communes, c'est très important de renoncer définitivement à ces constructions de ces 20 dernières années où on a une densification énorme des lotissements, ce qui n'est pas toujours simple à vivre, où on a une imperméabilisation totale. Il y a des lotissements sur lesquels vous ne trouvez pas un brin d'herbe. Tout est en bétonné et les seules fleurs qu'on trouve, elles sont dans des pots de fleurs. C'est moyen. L'habitat, donc, c'est important.
Aux communes, quand même, qui ont la main pour encadrer.
Elles l'ont relativement, c'est-à-dire qu'elles poussent, bien sûr, à ce qu'on ait des projets d'habitat qui soient aussi éco-construits que possible et aussi utilisant autant que possible les problématiques environnementales, mais c'est pas toujours simple. On est aussi face à des projets portés par des particuliers sur lesquels on ne peut interdire que ce que la loi autorise à interdire, et c'est pas toujours très simple à gérer.
Une loi qui reste assez large, assez sur ce plan-là.
Oui, puis peut-être
pas très restrictive, pas assez restrictive à
venir. Alors c'est ça, et puis qui n'a peut-être pas évolué à la rapidité où ont évolué les choses, c'est-à-dire qu'elle a probablement un petit peu de retard sur le phénomène.
Sachant qu'il y a quand même une bonne partie du parc immobilier qui est aussi vacante ou en ruine à rénover, et ça aurait peut-être plus de sens de rénover ces habitats-là plutôt que d'en construire de nouveau.
Avec des mesures qui supposent que... Enfin, la capacité à rénover, c'est quelque chose de complexe. Je pense en particulier aux copropriétés, où vous avez une dizaine de personnes favorables à une rénovation, et puis une personne qui n'en a pas les moyens et qui va se retrouver propulsée à l'extérieur parce qu'elle ne peut pas suivre. Tous ces paramètres sont à prendre en compte quand même, et il faut travailler pour une évolution positive, mais qui tienne compte aussi des difficultés que peuvent rencontrer les gens à la suivre.
Dans cette adaptation, il y a aussi la question centrale de l'eau, qui est quand même cet usage de l'eau par les agriculteurs, par le loisir, du coup avec des problématiques, parfois des conflits même sur certains endroits.
Oui, alors des conflits parce qu'on a une propension à les provoquer ou à les entretenir. Je crois qu'il faut, là aussi ça mérite un travail partagé plus apaisé sur tous ces sujets, parce que les intérêts sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que les agriculteurs font le travail. Ils s'organisent pour économiser l'eau. On ne peut pas en même temps leur demander d'être efficaces en matière de production vivrière et leur conseiller d'arrêter les robinets, quoi, parce que c'est contradictoire. Donc il y a là aussi une réflexion commune à avoir. Ce n'est pas le seul sujet d'ailleurs. On peut s'interroger sur la façon dont l'eau est impliquée dans le développement touristique de la vallée. Ça a des conséquences plutôt lourdes. Avec des consommations énormes qui sont pas toujours, enfin qui sont synchrones en général des besoins de l'agriculture. Enfin, tout ça nécessite des arbitrages.
Des consommations liées, par exemple, au remplissage des piscines.
Il
y a l'usage de l'eau qui est plus important parce que plus de personnes, les résidences secondaires aussi, plus de personnes qui utilisent l'eau.
Alors globalement, la consommation individuelle semble avoir baissé parce que les gens ont pris en compte, probablement aussi parce que la facture a tendance à peser de plus en plus là-dessus, donc c'est aussi un facteur de régulation. L'idéal, c'est aussi pour les communes d'évoluer, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, vers des systèmes de facturation qui pénalisent les très gros consommateurs. Avoir des tarifs raisonnables et raisonnés pour des consommations de besoins ultime, quoi, de l'eau dont on ne peut pas se priver, et puis envisager des coûts plus élevés sur les consommations qui, elles, sont un peu superflues ou qui pourraient être traitées autrement.
Ça, c'est une des stratégies, un des objectifs, même d'augmenter.
Alors, c'est des choses qu'on a en tête, mais c'est les communes qui ont cette possibilité-là. Hein, donc. Elles avancent doucement là-dessus parce que c'est aussi un sujet qui est difficile à traiter par rapport aux administrés.
Il y a la question du loisir autour de la baignade aussi, des lieux. Alors, il y avait cette question du lac de Grane à un moment qui avait fait un peu polémique. Il y a la question des retenues d'eau aussi qui sont en train d'être développées et qui participent du coup, qui favorisent l'agriculture locale. Mais qui sont des sujets quand même assez polémiques sur le territoire.
Qui sont des sujets polémiques et c'est dommage qu'ils le soient à ce point-là parce que ça ne permet pas de les traiter raisonnablement. On est contre ou on est pour, jamais on ne se pose la question intermédiaire de savoir ce qui serait bien pour tout le monde.
Alors justement, c'est une question hyper complexe.
C'est une question complexe. Les réponses qu'on apporte localement ne sont pas valables partout. Il y a à tenir compte des contextes particuliers. Et puis avoir en tête que les retenues d'eau, c'est aussi une façon de sécuriser notre alimentation à terme.
Oui, parce que du coup, il y a cette question de sensibilisation, ça en fait partie en fait.
Est-ce
que vous avez des actions, des moments en fait, ou de rencontres avec les habitants, habitantes de certaines communes pour expliquer les actions de la CCVD,
alors c'est quelque chose qui se fait relativement en permanence. Il y a plein d'événements au campus qui ont cette fonction-là. On avait organisé à la confirmation du PCAET, on avait fait un forum qui avait pour cible plutôt nos partenaires, les acteurs locaux, les élus. Et on va refaire cette année, en décembre, quelque chose de beaucoup plus ouvert au public. Et puis, il y a toute la communication qui est faite par la communauté à travers son site, à travers les réseaux sociaux, la page Facebook, etc. On essaye d'être aussi présent que possible sur ces thématiques-là.
Donc sur Internet et puis sur le territoire aussi, la gare dernière par exemple, avec certaines actions de sensibilisation.
Voilà.
Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, toutes ces actions, les prochains événements?
Alors, sur le site de la communauté de communes, vous avez tout ça parfaitement accessible et détaillé.
Avec l'ensemble des événements à venir que vous retrouvez donc sur le site de la communauté de communes du Val de Drôme.
Et on va même jusqu'à répondre à des demandes de Radio Saint-Ferré.
Et on était heureux d'ailleurs de vous recevoir et que vous ayez accepté cette invitation pour parler
largement de ce climat. Oui.
Merci Jean-Marc. Jean-Marc Bouvier, donc élu maire et vice-président, donc maire de Montoison, je le rappelle, et vice-président de l'Interco du Val de Drôme sur la compétence transition écologique. Merci.
Merci et bonne
encore
journée.
D'être venu nous présenter aujourd'hui une partie des actions menées dans le cadre de ce plan climat que vous pouvez retrouver lui aussi donc de manière synthétique sur le site de la communauté de communes du Val de Drôme. Vous écoutiez l'émission Il est une vallée sur Radio Saint-Ferréol et RDIWA, l'émission en partenariat avec la Biovallée. Et on se retrouve mercredi prochain. Bonne journée à toutes et à tous.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.